de théologie par le Père Marie Denis. Session de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 23 août 1993, conférence numéro 3.
Symboles de l'Esprit Saint qui sont des préfigurations. Un frère me met cette note, je le remercie. Comme symbole de l'Esprit Saint, le catéchisme cite aussi l'onction, qui est plus le point de vue du fruit, le sceau. Alors la nuée et la lumière. La lumière, c'est plus, évidemment, le point de vue du Verbe de Dieu. Alors lié à la nuée oriente, dirige, conduit le peuple d'Israël. Là on peut dire que c'est une préfiguration de l'Esprit Saint. Je voudrais maintenant, très rapidement, parce que on ne peut pas rester trop longtemps, mais ce que je voudrais, c'est que vous preniez goût vous-même à découvrir dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament, découvrir la révélation explicite de l'Esprit Saint. Il serait très beau de voir combien dans Saint Luc et dans Saint Jean, le mystère de l'Esprit Saint nous est révélé, dans Saint Matthieu aussi, dans Saint Marc aussi. Je le pense d'abord dans l'Évangile, voyez. Parce que c'est vrai, au point de vue des écrits, les écrits de Saint Paul parlent beaucoup de l'Esprit Saint. Mais si je regarde la première révélation de l'Esprit Saint, c'est quand même à Marie. Dans l'Évangile de Saint Luc, c'est net. Vous connaissez suffisamment l'Évangile de Saint Luc. Alors je ne suis peut-être pas obligé de le relire, bien que je relis un petit passage dans l'Annonciation. Il y a un ordre dans cette Annonciation. Vous savez bien que pour comprendre le mieux possible l'Annonciation, qui, au point de vue théologie biblique, est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est le passage de la théologie de l'économie divine de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est donc, il y a dans l'Annonciation, j'allais dire, le renouveau. Et pour bien saisir ce mystère de l'Annonciation, il faut, si on en a le temps, regarder toutes les Annonciations de l'Ancien Testament. Faites ça une fois au moins dans votre vie. C'est très beau. L'Annonciation faite à Abraham, au chêne de Mamré. L'Annonciation faite à Marie. Et puis toutes les autres sont très nombreuses. Et on comprend que toutes ces annonciations préfigurent celle qui est faite à Marie, Et dans cette annonciation, il y a un ordre. Il y a d'abord la salutation à Marie. Salut, comblée de grâce, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Donc c'est l'ange Gabriel qui reconnaît la grandeur de Marie. Il la regarde dans la lumière du Père, puisqu'il est un envoyé. Et un envoyé qui ne s'arrête pas à lui, mais qui est tout entier tendu vers celle à qui le Père l'envoie. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. Et l'ange, alors, en premier lieu, lui demande: sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il affirme quelque chose qui doit arriver d'une façon prophétique. Au sens strict, il ne lui demande pas « Acceptes-tu d'être mère de Dieu ?» Ce serait très intéressant, je crois, à bien comprendre cette manière dont l'ange la regarde, parce que ça nous ferait découvrir ce que Marie porte dans son cœur. L'ange la salue sûrement de la manière la plus parfaite que Marie puisse être saluée. Il est l'envoyé du Père. Et le Père a vis-à-vis de Marie un regard unique d'amour. Alors, notez bien cela. Sois sans crainte, puisqu'elle est pleine de grâce, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il y a en elle une plénitude de grâce, et elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu, qui est la source de sa plénitude de grâce. C'est comme ça pour eux, la manière dont Dieu nous regarde. Pour les hommes, c'est l'inverse. On regarde les qualités des personnes, et ces qualités de ces personnes qu'on salue ne viennent pas de nous. Tandis qu'en regardant la plénitude de grâce de Marie, cette plénitude de grâce est l'effet que Marie est aimée du Père, qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et alors, immédiatement, et voici que tu concevras et tu enfanteras un fils. Ce qui prouve que Marie, au plus intime de son cœur, je ne dis pas attendez que la prophétie d'Isaïe se réalise en elle. Mais elle était familiarisée avec cette prophétie. Ça, j'en suis sûr. La Vierge enfantera. Étant donné la si grande intimité de Marie avec le Père, pleine de grâce, et comme la foi jaillit de la grâce et que l'espérance jaillit de la grâce, il y a en elle une plénitude de foi et donc une compréhension de la parole de Dieu que nous n'avons pas. Et les théologiens doivent être attentifs à ça. Les théologiens doivent respecter l'ordre que Jésus lui-même nous dit. Il n'a pas révélé ces choses aux savants, et aux sages, et aux tout-petits, et donc à Marie. Voyez, parce que autrement, ce n'est plus une demande, ce serait comme lui demander d'une manière impérative d'être la mère. Tandis qu'au contraire, si Marie est familiarisée dans une grande intimité avec la prophétie d'Ésaïe, l'ange vient confirmer, et voici que tu concevras et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Voyez, première révélation, elle doit être la mère du Fils du Très-Haut. Donc, c'est la révélation du Fils du Très-Haut. Et cette révélation du Fils du Très-Haut se fait à Marie de la manière la plus connaturelle qui puisse être, puisque elle-même doit être la mère de ce Fils du Très-Haut. Et je crois qu'en fonction de cette connaturalité qu'on comprend dans ce discours, dans ce dialogue de l'ange avec Marie, on voit combien Marie devait attendre la réalisation de la prophétie. Je crois que c'est impossible de ne pas découvrir dans l'espérance de Marie, une plénitude d'espérance, un désir intense que la prophétie du vieillard, que la prophétie d'Isaïe se réalise, et se réalise le plus vite possible. Elle vivait de ce désir, et peut-être même, étant donné sa pauvreté, et étant donné sa consécration à Dieu, il est très possible que Marie ait tout offert de sa vie pour la réalisation de sa prophétie. On ne peut pas l'affirmer, mais on peut quand même essayer de comprendre l'espérance de Marie dans la venue du Messie, espérance qui avait pris une telle force dans le peuple juif. Et Marie achève cette espérance. Or, quand on espère énormément quelque chose qui doit arriver, on ne regarde pas la manière dont il va arriver. Mais c'est la réalité qu'on regarde qui doit arriver. C'est toujours ça l'espérance. L'espérance nous fait dépasser la manière dont la chose va se réaliser. Et regarde le don que Dieu va nous faire. Et c'est ça qui compte. Je crois que Marie ne se regarde pas du tout. Elle ne s'est jamais regardée. Et dans cette soif de la venue du Messie, elle ne se regarde pas. C'est l'ange qui la regarde. Tu concevras et tu enfanteras. Il faut essayer de saisir ce regard du Père sur Marie à travers Gabriel et l'intensité du désir, de l'espérance dans le cœur de Marie. Or, quand on désire intensément quelque chose et qu'on veut coopérer de la manière la plus vraie à la réalisation de la prophétie, on s'offre tout entier, si Dieu le veut. C'est dans le sens de sa sa consécration à Dieu. Et c'est comme ça qu'elle est tout proche de la prophétie. On oublie trop, je crois, quand on commente et quand on regarde l'Annonciation, on oublie trop l'attitude de Marie et la manière dont l'ange la regarde. Si Marie a tout donné pour que cette prophétie d'Isaïe se réalise le plus vite possible pour son peuple et pour elle, alors on comprend cette parole de l'ange, tu concevras, tu enfanteras. C'est fait. Ton désir et ta soif, elle est réalisée. Et Marie pose alors la question du comment. Donc là, elle se regarde. Vous voyez dans quel sens ? D'une façon très juste, très vraie. Mais le comment suit la finalité. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint. Alors, je crois que c'est ici où il y a cette première révélation de l'Esprit Saint. C'est très grand de faire le parallèle entre l'Annonciation au chêne de Mamré, Abraham, et cette Annonciation faite à Marie, dans un cadre totalement différent. Je crois que Marie est seule. Et c'est très direct. L'Esprit Saint surviendra sur toi. Donc, il te sera donné. C'est lui qui te conduira. Il prendra possession de toi. Surviendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voyez, l'affirmation que l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu vient après la révélation de l'Esprit Saint. Avant, ça reste, j'allais dire, un peu confus. Le Fils du Très-Haut. C'est évidemment, le Très-Haut, c'est Dieu. Alors, on peut dire que c'est la même chose. Mais il y a une affirmation plus nette, il me semble, qu'on peut dire après cette révélation. Et cette révélation de l'Esprit Saint, faite à Marie, montre que c'est lui qui doit réaliser en elle la prophétie du Père, l'annonce que Marie doit être mère du Fils de Dieu. C'est donc à travers la maternité divine de Marie que l'Esprit Saint est révélé. Pour la première fois, comme personne. Je sais bien qu'au point de vue exégétique, les exégètes, beaucoup d'exégètes, hésitent beaucoup. Parce qu'ils disent, l'Esprit Saint, alors c'est toujours la même chose. C'est là où la théologie biblique doit bien comprendre, hein. C'est toujours le plus parfait qui nous fait comprendre le moins parfait. Or, Marie a une plénitude de foi et une plénitude d'espérance comme personne de l'Ancien Testament l'a eu. Et donc, Marie ne comprend prend pas la parole de Dieu en fonction de ce qui a été compris dans l'Ancien Testament. Elle comprend la parole de Dieu directement et d'une manière plus plénière que personne ne l'a compris avant. Alors dire que Marie ne peut pas saisir qu'il s'agit de l'Esprit Saint comme d'une personne, parce que dans l'Ancien Testament jusque-là, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une personne, je crois qu'au point de vue théologie biblique, c'est une erreur. Il faut comprendre que Marie, en raison de la plénitude de sa foi, reçoit la parole de Dieu avec une compréhension beaucoup plus grande. Et ce qui me semble très important pour nous, c'est de saisir que cette révélation de l'Esprit Saint se fait pour Marie dans l'accomplissement de sa maternité. C'est quelque chose d'extrêmement net. C'est tout le mystère de la fécondité, de la maternité divine de Marie, qui est le fruit direct, l'effet direct du don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va survenir en elle et faire d'elle la mère de Dieu. Alors les théologiens ont essayé de comprendre comment, parce que c'est le comment qui intéresse les théologiens, comment cela peut-il se faire? C'est parce que l'Esprit Saint, source de fécondité pour Marie, va permettre à Marie d'être la mère, source de vie pour cet être nouveau qui va être le Fils du Très-Haut, s'incarnant en elle. Étant donné que nous n'avons pas une connaissance claire, évidente, du mystère de l'Esprit Saint, sont des approches merveilleuses et des approches, et toujours par les effets. On doit donc être très attentif à la manière dont Dieu, le Père, révèle l'Esprit Saint à Marie. C'est très étonnant que Marie pose la question du comment. Et là, on comprend tout le réalisme de Marie. Marie ne tombe pas en extase. Tu seras la mère de Dieu. Oh, et moi, très bien. Pas du tout. Comment cela se fera-t-il? C'est extraordinaire, ce réalisme de la foi chrétienne. C'est le premier moment de la foi chrétienne. Elle pose ce comment. Et la réponse qui donnait ce comment, c'est la révélation de l'Esprit Saint qui lui donnait. Je ne vais pas dire qu'à partir de là, c'est l'Esprit Saint qui doit nous expliquer tous les comment. Mais il y a quand même un lien très spécial de ce comment avec l'Esprit Saint. Le comment, c'est la manière dont les choses se réalisent. Comment Marie va-t-elle être mère, puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez? voyez bien, ce texte est très fort, puisque au point de départ, on dit que Marie est fiancée à Joseph. Et Marie elle-même dit, je ne connais point d'homme. Ce qui montre bien que ces fiançailles sont des fiançailles très particulières. Et c'est à partir de là, il ne faut pas l'oublier, que les pères de l'Église ont essayé de comprendre quelles pouvaient être ces fiançailles. Et ils ont, alors à ce moment-là, essayé de comprendre comment Marie s'était consacrée à Dieu. Mystère de la présentation de Marie au temple, pour répondre à l'amour de Dieu sur elle. Et que Joseph la demandant en mariage, ou Joseph étant officiellement reconnu comme son fiancé, Marie, pour demeurer dans la vérité, devait lui dire qu'elle ne s'appartenait plus, qu'elle était toute à Jésus, qu'elle était toute à Dieu. Je crois que c'est vraiment à Marie, à la petite enfant du Père, que la révélation de l'Esprit Saint s'est faite en premier lieu. Il s'est fait au moment de la révélation du Fils bien-aimé, du Fils du Très-Haut, révélation faite antérieurement à Marie. À partir de ce moment, si vous êtes attentif à l'évangile de Saint Luc, vous voyez constamment l'action de l'Esprit Saint. Donc, l'Annonciation, chapitre 1, verset 35. Regardez le verset 41. Il s'agit du mystère de la visitation. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, vers une ville de Juda. Et elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint survient sur Marie et Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est vraiment le renouveau, hein. Et c'est l'Esprit Saint, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et elle poussa un grand cri. Alors là, vous voyez, l'effet de l'Esprit Saint en Élisabeth, c'est de se mettre à pousser un grand cri. Et dit, béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur ? C'est merveilleux de voir que celle qui va confirmer Marie dans sa foi, dans son adhésion de foi, que le Père lui demande d'être la mère du Fils de Dieu. C'est Élisabeth, à qui Marie fait un geste de charité fraternelle. L'ange avait simplement donné un signe. Élisabeth, ta cousine, en est à son sixième mois. Et l'ange n'avait pas donné de commandement à Marie. Pas du tout. Un simple signe. Et Marie, dans son cœur, comprend que ce signe, c'est pour elle et qu'il doit l'aider à voir la volonté du Père sur elle. Et l'Esprit Saint se sert de cet acte de charité de Marie pour se communiquer à Élisabeth. Vous avez là, comme première révélation de l'Esprit Saint, quelque chose de magnifique. Et voyez, c'est curieux, on l'a dit, certains pères de l'Église l'ont dit, ce caractère maternel de l'Esprit Saint, c'est tout de suite vu dans cette première révélation. L'Esprit Saint révèle à Marie sa maternité. À l'égard d'Élisabeth dans sa maternité. Et il se sert du petit Jean-Baptiste qui est dans le sein de sa mère pour révéler à Élisabeth ce qu'est Marie, la maternité de Marie. C'est-à-dire, il fait le lien entre ces maternités. Il révèle à ces deux mères la grandeur de leur maternité. C'est quand même très étonnant, ça. L'enfant bondit dans son ventre et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et alors elle pousse ce cri. Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse dans mon ventre. Et bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Nous avons ensuite, comme fruit de cette rencontre de ces deux mères, sous l'action de l'Esprit Saint, le chant du Magnificat. Mon esprit exulte en Dieu, mon sauveur. Magnificat. On ne dit pas directement la présence de l'Esprit Saint a été dite, c'est pas la peine de le redire. Mais le Magnificat, c'est la première prière liturgique chrétienne. Elle est sous l'action des dons du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en Marie. Une œuvre prophétique qui annonce toute la théologie de l'économie divine de l'Église. Comment l'Église est-elle conduite par l'Esprit Saint? C'est pour ça qu'on doit tant aimer le Magnificat. C'est l'Esprit Saint qui dilate l'âme de Marie, mon âme magnifique Seigneur. Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Vous avez ensuite, à partir, j'allais dire, de chacun des grands événements, nous voyons la présence de l'Esprit Saint. À partir de ce moment-là, regardez lorsqu'il s'agit de la présentation de Jésus au temple. On voit comment Marie est menée au temple pour accomplir la loi. Elle se cache derrière la loi pour rester plus petite. Et le vieillard Siméon, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc de nouveau, on voit, j'allais dire, le royaume de Dieu qui s'étend par la présence de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents amenaient l'enfant Jésus pour lui faire à son égard, selon la coutume imposée par la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit le nom Timétis. Donc vous voyez cette action d'Esprit Saint qui unit de manière si intense, si forte, Marie, Élisabeth, Marie-Joseph et le vieillard Siméon. Vous voyez, ensuite, lorsqu'on voit la préparation de Jésus dans son ministère, Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint. C'est sous l'action de l'Esprit Saint. Et au baptême de Jésus, or donc, comme tout le peuple avait été baptisé, et que Jésus baptisé, lui aussi, était en prière, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous un aspect corporel, comme une colombe. Et une voix advint du ciel, c'est toi, mon fils, le bien-aimé, tu as toute ma faveur. On verra, et l'évangile ne cesse de le montrer, surtout dans Saint-Luc, que toujours, toutes les actions du Christ se font sous l'influence de l'Esprit Saint. Donc, on pourrait dire, vous voyez, que la grande révélation du Fils et la révélation de l'Esprit Saint sont simultanées dans le temps pour Marie et ensuite pour les disciples et pour tout le peuple d'Israël. Voyez ce qui est dit dans la première activité de Jésus à Nazareth, chapitre 4, verset 16. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et déroulant le livre, il trouva le passage où est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année que le Seigneur agrée. Et roulant le livre, il le remit au servant et s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette écriture. » C'est le point de départ de sa vie apostolique, selon saint Luc. Selon saint Jean, c'est Cana. Selon saint Luc, c'est Nazareth. C'est pas inquiétant, ça, hein, parce que les apôtres, les évangélistes, ne font pas œuvre d'historien au sens où on l'entend aujourd'hui. Ils sont avant tout des témoins. Et donc, chacun a un rôle particulier comme témoin. Marc, Matthieu, Luc, Jean. Et pour que leur témoignage soit plus parfait, l'Esprit Saint fait que pour chacun, ce témoignage prend une qualité particulière. Et selon l'Apocalypse, nous comprenons que cette qualité particulière, c'est pour nous montrer comment Jésus est le lion de Juda, comment Jésus et le jeune taureau, comment Jésus a le visage d'homme, comment Jésus est l'aigle. Chacun des évangiles montre un aspect particulier du mystère de Jésus. Mais ce qui me semble très spécial et très fort dans l'évangile de saint Luc, c'est de montrer que toutes les actions de Jésus sont toujours sous l'action de l'Esprit Saint. Et cette prophétie d'Isaïe réalisée le montre bien. Jésus agit sous l'action de l'Esprit Saint. Toujours. Et donc, il est celui qui, par ses actions, par sa vie, par sa présence, nous révèle l'Esprit Saint. C'est le meilleur révélateur de l'Esprit Saint, c'est Jésus. C'est lui qui nous montre qui est l'Esprit Saint. Et ça, c'est très fort, on essaiera de bien le comprendre, comment la lumière révèle l'amour. La lumière divine et ne s'oppose pas à l'amour. Ensuite, il faut comprendre tout ce que saint Paul nous dit sur l'Esprit Saint. Là, je vais très vite, mais c'est quand même très important de voir que saint Paul considère que le chrétien, c'est celui qui est mu par l'Esprit Saint. Donc, comme le Christ. Le Christ, dans toutes ses activités, est mu par l'Esprit Saint, et saint Paul n'hésite pas de dire, c'est celui qui est mu par l'Esprit Saint qui est fils de Dieu. Tant qu'on n'est pas mu par l'Esprit Saint, on agit selon nos mœurs humaines. Les païens font de même. C'est lorsqu'on est sous la mouvance de l'Esprit Saint qu'il y a alors quelque chose en nos activités qui dépasse le point de vue de la prudence humaine. Il ne faut pas renverser, il ne faut pas dire pour que ce soit mû par l'Esprit Saint, il suffit de dépasser la prudence humaine. Surtout pas dire ça, parce que ça, ce serait une fausse manière de comprendre ce que saint Paul nous dit. Si on agit sous le souffle de l'Esprit Saint, il y a toujours un dépassement de la prudence humaine. Alors voyez comme c'est important pour nous de comprendre que nous ne sommes chrétiens, c'est-à-dire du Christ, et reliés au Christ, et vivant en harmonie avec le Christ, que si nous agissons sous le souffle de l'Esprit Saint. Saint Thomas précisera, si notre activité a un mode divin qui dépasse le mode prudentiel. Or, ce mode divin, nous ne pouvons le saisir que par la foi et par la charité. Vous ne pouvez pas le saisir au plan philosophique et encore moins au plan psychologique. Ça échappe complètement à la psychologie. C'est un registre divin qui ne peut être saisi que par la foi. Ce qui veut dire, si on est tout simplement à comprendre, bien, que le chrétien, quand il agit comme chrétien, est toujours au-delà de la psychologie. Psychologie, elle est à la base. La philosophie nous permet de découvrir la finalité. La grâce nous permet d'agir en enfant de Dieu. Et pour agir pleinement en enfant de Dieu, il faut être sous la mouvance de l'Esprit Saint. Alors voyez tous les niveaux d'intelligibilité et ce que vous fait comprendre la psychologie. C'est très très important pour ne pas tomber dans le modernisme moderne. Le modernisme moderne est au niveau psychologique. Puisque le modernisme consiste à confondre la parole divine et la parole humaine, à confondre ce qui est de Dieu en le ramenant à ce qui est d'humain, et donc ramener l'action de l'Esprit Saint, tout simplement, à notre activité humaine, selon son comportement psychologique. Vous voyez, je dirais, une simple lecture de l'Écriture montre ça. Et montre ça d'une façon très étonnante, si on sait tout simplement le lire, être mu par l'Esprit Saint. Saint Paul montre également, c'est peut-être le second caractère de l'action de l'Esprit Saint selon Saint Paul, c'est de montrer que l'Esprit Saint nous donne une nouvelle liberté. Alors ça, c'est très important à saisir. On aura l'occasion, j'espère, d'y revenir. Que agir en docilité à l'Esprit Saint, donc sous la mouvance de l'Esprit-Saint, c'est en même temps agir dans une liberté souveraine. Alors vous comprenez comment, si facilement, on peut dire que c'est contradictoire. Agir en tant que mu par l'Esprit-Saint. Être mu, c'est pas précisément être libre. Je parle au point de vue purement philosophique. Celui qui est mu, il dépend d'un autre. Il est d'un autre. Il n'a pas d'autonomie propre. Il est mu. Il est dépendant d'un autre. Il est relatif à un autre. Et on parle de la liberté. des enfants de Dieu. Des enfants de l'Esprit Saint. Cette liberté, elle vient d'Esprit Saint. La liberté, on est libre quand on a une certaine autonomie et qu'on agit dans cette autonomie. Ah, vous voyez cette chose merveilleuse pour saisir ce qu'est l'action de l'Esprit Saint sur nous. L'Esprit Saint lui-même pousse Saint Paul à nous donner deux analogies, deux comparaisons. Être mu par l'Esprit Saint, la liberté des enfants de Dieu. Ces deux comparaisons, si je les prends au niveau humain, elles s'excluent. Si je les saisis dans la foi, elles m'obligent de dépasser ma compréhension humaine pour adhérer au mystère. Ma compréhension humaine de celui qui est mu, c'est celui qui est dépendant. La compréhension humaine de celui qui est libre, c'est celui qui a de son autonomie. Et donc c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas en même temps, au point de vue humain, être mu et être libre. Et on touche là le mystère de ma sainteté, le mystère de ma divinisation par l'Esprit Saint. Je suis transformé par l'Esprit Saint. Eh bien, ce mystère de transformation, cette liberté et cette dépendance me fait comprendre ce qu'est l'amour divin qui m'est communiqué par l'Esprit Saint. Alors, nous y reviendrons. Mais je voulais souligner ça, parce que je crois ça très important de bien comprendre ce qui est au-delà de notre compréhension. C'est exactement la même chose pour le mystère de la croix de Jésus. Jésus est mu par l'Esprit Saint pour obéir au Père. Il réalise le mystère de la croix dans une totale dépendance au Père. Il le réalise sous la mouvance de l'Esprit Saint dans une parfaite liberté.